Je vous invite à prendre place donc pour notre prochaine intervention. Frédéric Baudin est membre fondateur d'Arocha France et directeur de Culture Environnement Média, une organisation qui promeut les valeurs chrétiennes dans les domaines de la culture, de l'environnement et des médias. Ses deux derniers livres, Dieu est-il vert et D'un jardin à l'autre, abordent la question de l'écologie dans une perspective biblique et chrétienne. Frédéric, nous sommes très heureux que vous avez accepté de nous parler aujourd'hui sur le sujet du jardin à la ville, une perspective théologique sur l'écologie.
Bien, bonjour à tous, merci pour votre accueil. Je fais tout de suite un petit essai, voilà, ça marche. Sur les commandes, voilà, donc du jardin à la ville, une perspective biblique et théologique donc sur l'écologie. Je pensais tout d'abord aborder davantage les questions eschatologiques, parce que j'avais vu le titre sur l'avenir. Et puis lorsque j'ai vu que Étienne Lermenot et Sylvain Romerowski allaient aborder beaucoup plus en détail ce thème, j'ai finalement changé un petit peu l'orientation et je suis revenu à un exposé un petit peu plus classique, mais tout de même j'esquisserai quelques pistes en fin de parcours sur ce point. Mais je vais surtout aborder donc la question biblique, les repères qui nous sont donnés dans la Bible, et je commence tout de suite par les trois verbes ou trois couples de verbes clés que l'on retrouve dans le livre de la Genèse, où plusieurs verbes sont donc employés pour définir le mandat culturel, comme le nomment les théologiens, la mission, si vous voulez, adressée par Dieu, le Créateur, à l'humanité. Alors, multiplier et remplir la terre, il s'agit de peupler notre terre, dominer et soumettre les animaux, la végétation, les ressources naturelles au sens large, et enfin cultiver et garder le jardin, précisément au départ, ce jardin d'Éden, mais par extension, bien évidemment, aussi notre terre dans son ensemble. Et je commencerai donc par le premier couple de verbes, multiplier et remplir. Ces verbes, verbes à l'impératif, sont donc des ordres adressés par Dieu avec sa bénédiction, il faut le souligner, aux hommes et aux femmes, mais aussi aux animaux, ce sont les mêmes termes qui sont utilisés d'ailleurs. Et ils évoquent avant tout l'idée d'une croissance numérique. Le mot « croissance », on l'a déjà un petit peu entendu dans l'exposé précédent, n'est pas innocent, en particulier dans le cadre de notre étude. Pendant des millénaires, la population mondiale est restée relativement stable, ou en tout cas marquée par une croissance très faible et très lente. Jusqu'au XIXe siècle, l'ordre de peupler le monde ne posait pas de problème, disons, majeur. Mais au début du XIXe siècle, alors que Malthus, et on a rappelé tout à l'heure que Malthus était effectivement un pasteur anglican, alors nous sommes là dans un lieu choisi, Malthus s'inquiétait des écarts entre la croissance de la population et celle des ressources. Et on dénombrait à cette époque environ 1 milliard d'individus sur notre planète. Mais dès 1930, on estimait que la population mondiale s'élevait à 2 milliards d'habitants, puis 4 milliards en 1975, et enfin 6 milliards en l'an 2000. Et vous le savez, nous sommes aujourd'hui environ 7 milliards d'individus sur cette Terre. On parle d'explosion démographique, et l'explosion démographique est au moins en partie la cause de la dégradation de notre environnement actuel. Il a fallu en effet nourrir, abriter cette population sans cesse croissante et pour cela développer l'agriculture, mais aussi l'industrie, les transports, tout cela pour assurer la distribution des produits à grande échelle. Et puis il a fallu aussi multiplier les logements, les réseaux de communication, etc., etc. Le plus souvent, il faut aussi le rappeler, aux dépens d'espaces autrefois agricoles. Mesures indispensables qui ont malheureusement entraîné une croissance de la consommation d'énergie, on vient d'en parler assez longuement, une pollution indubitable et qui ont, toutes ces mesures, perturbé d'une manière ou d'une autre les équilibres dits naturels. On estime que la population mondiale pourrait culminer à environ 8 à 10 milliards d'individus d'ici un demi-siècle à un siècle. On estime aussi qu'il serait possible, en principe, de nourrir cette population à condition, bien évidemment, qu'aucune perturbation majeure ne survienne. Je pense à une catastrophe naturelle de plus ou moins grande ampleur. On parle du fameux réchauffement climatique qui semble, malgré tout, d'une certaine manière avéré, mais qu'il faut sans doute nuancer en fonction des résultats de la recherche scientifique dans ce domaine. Cela pourrait aussi être une série de mauvaises récoltes, et nous ne sommes pas totalement à l'abri, malgré tout, par exemple dans des pays ou grands pays producteurs de céréales, de riz et de blé. Et nous le savons, nous sommes toujours soumis à certains aléas de la production, aléas climatiques. Cela pourrait aussi être un accident industriel majeur. Je vous dis Seveso, Bhopal, Tchernobyl, ce sont des noms qui aujourd'hui sont gravés dans nos mémoires et qui ont laissé des traces. Effectivement, il peut encore se produire un certain nombre d'événements semblables. Cela pourrait être enfin un conflit politique, alors plus ou moins lié à la question de l'énergie ou de l'eau, etc. On en parle beaucoup. Nous ne sommes pas à l'abri, nous le savons, d'un conflit ici ou là, comme il y en a d'ailleurs un petit peu partout dans le monde. Quoi qu'il en soit, notre défi aujourd'hui, c'est de trouver des solutions agricoles, bien sûr, industrielles et urbaines, parce que nous vivons de plus en plus dans des villes et même dans de très grandes villes, solutions pour la production et la consommation d'énergie, c'est un vrai problème, je ne saurais le souligner davantage après Samuele Forfari, solutions qui nuisent, nous dit-on, le moins possible à l'environnement, tout en permettant de nourrir, d'abriter, de loger au mieux le plus grand nombre d'individus, et tout cela sans freiner, et je dirais même au contraire en le mettant à contribution, le progrès scientifique, technologique, économique, social, etc. Le rapport de Madame Brundtland, c'était déjà en 1987, alors qu'elle était présidente d'une commission sur l'environnement, précise que le développement actuel doit s'inscrire dans la durée pour permettre aux générations futures de vivre dans des conditions de confort, si possible, optimales. Et on parle donc désormais de développement durable qui s'inscrit dans la durée. Pour ce qui est de dominer et soumettre, d'après la Genèse, les hommes et les femmes étaient invités à remplir, dominer, soumettre, cultiver la terre en communion avec Dieu, c'est-à-dire avec un mandat spécifique, avec amour, avec justice. Leur domination revenait à prendre soin de la création pour le bien de leurs semblables et pour la gloire surtout du Créateur. Dans le livre du Lévitique, troisième livre de la Bible, il est rappelé aux descendants d'Abraham qu'ils ne doivent pas asservir leurs frères, sous-entendu de façon arbitraire, tyrannique. Ces lois étaient données pour éviter les problèmes de l'esclavage. Les Juifs qui pouvaient être réduits à l'état de serviteurs, disons, pour des raisons économiques, pouvaient être rachetés par un membre de leur famille. C'est par exemple la belle histoire de Ruth dans la Bible. Ils avaient aussi la possibilité de recouvrer la liberté lors de l'année sabbatique, c'est-à-dire tous les 7 ans. Et par ailleurs, les prophètes rappelaient au roi qu'il devait exercer sa domination avec justice, pour le bien de tous, qu'il devait prendre soin de son peuple, se conduire, et c'est l'image la plus fréquente dans l'Ancien Testament, comme un berger envers son troupeau, et certainement pas donc comme un tyran assoiffé de pouvoir. Il y avait donc une limite, et c'est cela que j'aimerais souligner, une limite posée par Dieu à la domination de l'homme sur ses semblables, mais aussi sur la création tout entière, comme nous le verrons par la suite. Pour ce qui est de cultiver et garder le jardin, ah oui, alors apparemment, là aussi, les diapos ne passent pas tout à fait. J'ai pourtant changé de commande, mais vous voyez, on a les mêmes problèmes. Au-delà du sens strictement littéral, il s'agit bien de cultiver la terre pour se nourrir. En hébreu, ces verbes « cultiver » et « garder » ont aussi un sens spirituel. le lien, alors vous me direz, entre les deux sens n'est pas évident. Vous savez, il ne faut pas faire dire à l'hébreu ce qu'il ne dit pas. Parfois, on tire un petit peu sur les termes pour leur faire dire parfois autre chose même que ce qu'ils signifient. Mais tout de même, le lien entre les deux sens, s'il n'est pas évident, me permet, et il me semble, de ne pas exclure de lire dans cette parenté linguistique un encouragement à envisager notre activité au-delà des simples réalités matérielles. Selon le contexte, en effet, le verbe que l'on a traduit par « cultiver »,« travailler la terre » peut avoir le sens de servir Dieu, travailler pour Dieu, rendre un culte à Dieu. D'autre part, le peuple d'Israël était invité à garder les commandements au sens fort, l'alliance de Dieu, le sabbat, garder aussi son âme. Il y a bien là une dimension spirituelle incontestable et qui donne un sens, encore une fois, très fort à ce verbe « garder ». Et ces verbes de la Genèse, dans leur ensemble, signifient que l'autorité déléguée par Dieu aux êtres humains, leur vocation, de remplir, de cultiver, de garder la terre et ses ressources, cette mission doit s'exercer dans le cadre des limites posées par le Créateur. Leur domination ainsi définie implique non seulement leur responsabilité humaine, mais aussi religieuse. Comme l'écrit Jacques Ellul, l'homme appartient à cette création, mais il y porte une présence de Dieu. On dira souvent alors qu'il est gérant de la création pour Dieu, lieutenant de Dieu dans la création. Il ne doit pas gérer cette création pour la puissance et la domination, mais en tant que représentant de l'amour de Dieu. Alors, tout cela pose bien évidemment le problème de nos responsabilités humaines et spirituelles, comme je viens de l'indiquer, mais aussi les limites précisément qui sont posées au mandat culturel. Comme le suggère l'apôtre Paul au début de sa lettre aux Romains, où il fait écho d'ailleurs à plusieurs textes de l'Ancien Testament, la nature porte en quelque sorte l'empreinte du Créateur. Depuis, dit Paul donc dans cette lettre aux Romains, que Dieu a créé le monde, ses qualités invisibles, c'est-à-dire sa puissance éternelle et sa nature divine, se voient fort bien quand on considère ses œuvres. Cette révélation de Dieu dans la nature est partielle. Elle ne dit pas tout de Dieu, mais elle dit quelque chose de Dieu. Et les hommes et les femmes créés à l'image de Dieu peuvent au moins reconnaître dans la création la marque de la divinité. Cela les rend même, souligne l'apôtre Paul, inexcusables de ne pas avoir honoré Dieu. Cette révélation partielle fonde donc leur responsabilité et elle dévoile aussi, d'une certaine manière, leur faute devant Dieu. Et cette faute, c'est un renversement complet des valeurs, des priorités, de l'ordre même de Dieu. Au lieu, toujours l'apôtre Paul poursuit dans cette lettre aux Romains, au lieu de dominer sur les animaux des divers milieux naturels, les poissons, les oiseaux, les animaux terrestres, les hommes et les femmes se sont abaissés au point de les diviniser, d'en faire donc des divinités. Autrement dit, au lieu de servir le Créateur, ils ont travaillé pour la seule créature. Ils lui ont littéralement rendu un culte. C'est d'ailleurs le cas aujourd'hui pour certains mouvements écologistes, alors plus ou moins affiliés à cette nébuleuse qu'on nomme le Nouvel Âge, et qui emprunte aux religions païennes le culte, par exemple, de Gaïa. Gaïa, la terre érigée au rang de déesse mère, sur fond de panthéisme où Dieu se confond avec la nature. Le paradoxe est encore plus poussé lorsque l'être humain nie la réalité de sa condition de créature à l'image de Dieu. Ou pire, lorsqu'il se fait lui-même Dieu, comme nous le laissent penser de nombreux auteurs contemporains, tant dans le domaine scientifique, philosophique et littéraire. Je reviendrai un instant sur ce point tout à l'heure dans mon exposé. Bref, les fautes dénoncées par l'apôtre Paul, toujours dans la suite de sa lettre aux Romains, trahissent le désir de l'être humain de vivre dans la démesure, sa prétention à franchir les limites de sa condition, tant sur le plan spirituel que moral et pratique, et cela a des conséquences néfastes dans tous les domaines. familiale, sexuelle, sociale et économique. Et vous verrez que chacun de ces domaines sont effleurés d'une manière ou d'une autre par l'apôtre Paul dans cette lettre aux Romains. En voulant s'affranchir de Dieu, en se prenant eux-mêmes pour des dieux, en revendiquant leur autonomie complète, notamment pour discerner le bien d'avec le mal, puis en servant la créature au lieu du Créateur, les hommes et les femmes qui se croient sages, s'exclame l'apôtre Paul, se conduisent en fait comme des insensés, des fous. Les êtres humains asservis aux idoles, livrés à leur propre raisonnement, sans relation avec Dieu, distendent ainsi jusqu'à les rompre les liens créationnels avec toutes les conséquences humaines et naturelles que cela peut entraîner. Alors vous voyez la photo de ce pauvre âne un peu surchargé, qui me semble bien illustrer justement le fait que lorsqu'on franchit les limites, eh bien un problème aigu se pose. Alors je donnais une fois cette conférence justement devant des scientifiques, un petit peu comme aujourd'hui, et il y avait là une vétérinaire, une femme vétérinaire dans l'assistance, et qui s'est levée et qui a dit « mais cet âne est en train de mourir par asphyxie ». Alors c'était l'œil de la professionnelle, mais alors j'ai rebondi tout de suite en disant « mais c'est exactement ce que je veux montrer, quand on franchit les limites de notre nature, on est en danger de mort, littéralement. Il y a donc un véritable danger à vouloir franchir les limites qui sont les nôtres des uns des autres. Ceci dit, je suis bien conscient que trouver les limites, ça n'est pas non plus aussi facile. Vous savez, dans la recherche, on touche beaucoup à la question des limites et jusqu'où peut-on aller lorsqu'on doit s'arrêter. Voilà, ça suscite pas mal de réflexions, ce n'est pas toujours non plus aussi simple. Les lois de l'Ancien Testament, qui justement fixaient un certain nombre de limites, mettent en évidence les liens de solidarité entre l'homme et la nature. Dans les livres du Lévitique et du Deutéronome, en particulier dans l'énoncé des bénédictions et des malédictions, on pourrait dire des promesses et des mises en garde adressées par Dieu à son peuple, un lien très étroit est souligné entre l'obéissance donc du peuple de Dieu aux lois transmises par Moïse, le climat favorable et la fertilité de la terre, l'abondance des récoltes et enfin comme une conséquence logique, le culte que l'on rend à Dieu par amour, avec reconnaissance, lors des grandes fêtes agricoles qui marquent précisément le temps des récoltes. C'était notamment le cas pour les trois grandes fêtes de la Pâque, de la Pentecôte et de la fête des tentes, la fête de Soukhot en automne. Toute la création est donc solidaire. En principe, par sa soumission à Dieu, par sa conduite juste, par sa foi, sa confiance en Dieu, l'être humain peut assurer la sauvegarde et même la prospérité de la création dont il est le gérant, sage et avisé. Alors cela demeure bien évidemment un idéal à atteindre depuis ce que les théologiens nomment la chute, la rupture de l'alliance avec Dieu. Le monde est marqué par la réalité du mal, du péché, et il serait pour le moins excessif de considérer tout désordre actuel dans le monde ou même dans nos vies pour chacun d'entre nous comme la conséquence de fautes précises donc d'un peuple ou d'individus envers Dieu. Et nous savons bien à quels excès cette interprétation simpliste peut mener. Il reste néanmoins vrai que si les hommes et les femmes se pliaient autant qu'il est possible, dans la foi, à cet ordre créationnel, s'ils respectaient ces priorités imposées par leur Créateur pour leur bien, s'ils rendaient un culte à Dieu par amour et avec reconnaissance, alors la terre et tout ce qui la peuple et la compose s'en porteraient certainement d'autant mieux. Comme l'écrit le théologien Henri Blocher, si l'homme obéissait à son Dieu, il serait le moyen d'une bénédiction pour la terre. Mais dans son avidité insatiable, dans son mépris des équilibres créationnels, dans son égoïsme à courte vue, il la pollue, il la détruit, il fait d'un jardin le désert. Il s'agit là, bien évidemment, d'une attitude extrême dénoncée par le théologien, mais conséquence visible éventuellement même dans nos sociétés. Alors il est juste, il me semble, bien sûr, de voir dans la nature un enchaînement de causes et d'effets qu'il nous appartient de bien comprendre. Ça, c'est vraiment le rôle de la science, pour le maîtriser et en tirer un certain avantage, afin de trouver les moyens de mieux vivre dans ce monde. Mais si notre vision du monde reste purement mécaniste, et c'est ce qu'on retient en général, j'allais dire, du credo cartésien, et cette domination rationnelle reste, je crois, très présente dans notre société, si donc nous exploitons les ressources sans référence à Dieu, sans règles éthiques bien définies, sans limites, le danger de mal gérer et même de détruire la création est d'autant plus grand. En effet, la volonté de dominer la nature afin d'en tirer le plus grand bénéfice et surtout le plus immédiat, la cupidité, l'amour de l'argent érigé en Dieu implacable. Et vous vous souvenez que dans sa lettre aux Colossiens, au chapitre 3, l'apôtre Paul n'hésite pas à assimiler la cupidité à l'idolâtrie. Et Jésus le déclare, on ne peut rendre un culte à Dieu et à Mammon, l'idole, donc la personnification, si vous voulez, de la richesse ou de l'amour des richesses. Bref, l'avidité insatiable des hommes et des femmes les conduit le plus souvent à consommer les ressources naturelles et les biens, d'ailleurs, fabriqués au-delà de toute mesure, et pour cela, à forcer les limites du temps ou de l'espace, comme de la nature, par tous les moyens qu'ils ont eux-mêmes conçus. Le rendement, le profit sont sans doute légitimes, mais ils ont aussi leurs limites. La croissance économique est certes révélatrice d'un monde en mouvement, en croissance, et le mot n'est pas à bannir, cela est conforme au mandat culturel, sans qu'elle s'impose par tous les moyens pour dominer nos esprits et nos comportements, au point même d'asservir l'humanité et la création tout entière. Dans une lettre encyclique, le pape Jean-Paul II décrit, il me semble très bien, cet enchaînement funeste. L'être humain, saisi par le désir d'avoir et de jouir, plus que par celui d'être et de croître, consomme d'une manière excessive et désordonnée les ressources de la terre et sa vie même. Il croit pouvoir disposer arbitrairement de la terre en la soumettant sans mesure à sa volonté, au lieu de remplir son rôle de collaborateur de Dieu. On n'est pas très loin du lieutenant de Dieu dont parlait Jacques Ellul. Dans l'œuvre de la création, l'homme se substitue à Dieu et finit ainsi par provoquer la révolte de la nature, plus tyrannisée que gouvernée par lui. Alors comment donc éviter cet écueil de la tyrannie de l'homme sur la création? Je vais m'enfoncer un petit peu plus dans l'Ancien Testament et dans les limites qui sont posées et bien marquées dans certains textes ou certains faits. Et en premier lieu, le sabbat. Le sabbat, qui était l'un des garde-fous donnés autrefois par Dieu à son peuple pour l'empêcher justement de rompre ses liens créationnels, pour lui éviter de vivre de façon entièrement autonome, de ne compter que sur ses propres forces, sur son travail pour vivre et pour le mettre aussi en garde, je crois, contre la tentation de diviniser la nature ou les êtres vivants. Un jour par semaine, le peuple d'Israël devait cesser tout travail. Le repos était pour ces hommes, ces femmes, un signe de leur dépendance envers le Seigneur, un signe de leur foi en un Dieu unique et invisible, et le peuple d'Israël pouvait ainsi placer sa confiance en ce Dieu souverain qui pourvoyait à leurs besoins, besoins élémentaires pour vivre, même lorsqu'ils se reposaient. Pas aussi évident, surtout dans des sociétés anciennes et même encore aujourd'hui dans certains pays du monde où pratiquement le travail quotidien est indispensable pour vivre. Il y a presque un acte de foi à s'arrêter et se reposer, ne serait-ce que pendant une journée. Le repos était donc étroitement lié à la notion de grâce et de providence, et ce jour rappelait chaque semaine aux Israélites qu'ils étaient des hommes et des femmes limités dans le temps et dans l'espace, puisqu'ils ne pouvaient pas non plus se rendre très loin et au contraire aller dans un lieu si possible commun, ne serait-ce que pour rendre leur culte au Créateur. Pour honorer Dieu, ils devaient ainsi tenir compte de leurs limites, aussi bien que celles des autres créatures, dont les animaux avec lesquels ils travaillaient, puisque les animaux sont également nommés dans la liste de ceux qui doivent se reposer le jour du sabbat. Enfin, la référence à la création était explicite. le jour du sabbat, le peuple d'Israël, le peuple de Moïse, se reposait pour célébrer le Créateur, le Dieu souverain qui veille sur sa création, qui la soutient activement en ce septième jour qui se prolonge. La terre même devait, selon la belle expression biblique, jouir de ses sabbats, se reposer pour être plus féconde. Et il y avait effectivement un rythme imposé, en quelque sorte, aux travaux agricoles, et tous les 7 ans, une année donc de jachère, de cessation de travail. Mais lorsque ces commandements divins étaient transgressés, la terre, littéralement, pouvait vomir ses habitants. Et nous retrouvons cette métaphore dans le livre du Lévitique au chapitre 18. Métaphore éloquente, la terre ne supporte pas l'exploitation abusive des hommes, la transgression du repos, la non-foi en ce Dieu souverain et providentiel, et cela la rend littéralement malade, au point de vomir ses habitants. Elle subit les effets de la désobéissance des hommes à la loi de Dieu. Les hommes et les femmes peuvent donc dominer et soumettre la création à condition qu'ils restent soumis eux-mêmes à leur Créateur, dominés par le Seigneur. Alors je vais esquisser là une vision peut-être biblique, j'espère, du développement durable en posant encore une fois certaines limites à un développement que j'ai qualifié de mesuré. Pour se rapprocher du développement ou de l'idéal du développement durable, conforme au mandat culturel, nous sommes placés, il me semble, devant un triple défi. Il s'agit en effet pour nous de réévaluer notre rapport au temps, à l'espace et aux ressources naturelles. Et tout cela de pair avec les moyens financiers et techniques dont nous disposons souvent sans grande sagesse. Alors il est évident que si nous voulons vivre d'une manière différente, par exemple utiliser davantage, c'est ce qu'on nous dit, ce qu'on entend presque chaque jour, des moyens de transport comme le vélo au lieu de la voiture, quand c'est possible, eh bien nous serons obligés d'adopter un autre rapport au temps, parce qu'il faudra plus de temps pour se déplacer. De même, si nous voulons raccourcir nos distances de parcours entre notre travail, notre maison, notre centre pour nous alimenter, nos centres de commerciaux, nos centres de loisirs. Vous savez, aujourd'hui, on a tout organisé en fonction de la voiture, donc on se déplace énormément. Et cela suppose une réorganisation de l'espace, et c'est ce que j'entends là par penser une autre façon, disons, de vivre dans notre espace et de vivre aussi le temps. Et tout cela, bien sûr, en rapport avec les moyens que nous avons, qui sont des moyens extraordinaires. Nous avons aujourd'hui plus que jamais des moyens de nous déplacer, des moyens de franchir les limites du temps. On prend un avion et on est à l'autre bout du monde en une demi-journée. C'est tout à fait extraordinaire. Alors dans tout cela, je ne veux pas nier la valeur de nos actes individuels. Vous savez, alors je ne sais pas si c'est pour nous donner bonne conscience, mais il me semble que ça va un petit peu dans ce sens. On vous dit par exemple, il faut fermer votre robinet pendant que vous vous lavez les dents, et vous allez économiser de l'eau. Bon, on oublie que l'agriculture quand même consomme 70% de l'eau donc distribuée par le réseau de l'eau. Et donc nos petits gestes finalement sont très peu de choses. Mais ils sont quand même quelque chose. Je ne veux pas nier la réalité, la valeur de ces actes individuels. Mais je me demande si ces actes individuels ne sont pas là juste pour calmer un tout petit peu notre conscience, nous donner bonne conscience de vivre de façon très écolo, entre guillemets, comme on le dit de plus en plus, sans viser peut-être quelque chose de plus significatif qui ait un réel impact sur nos ressources. Et je suis conscient qu'aucun changement significatif à grande échelle n'est possible sans une adhésion plus large, une adhésion collective. Si l'on veut, par exemple, réorganiser notre espace pour mieux vivre dans nos cités, cela est impossible sans le concours des pouvoirs publics et donc des électeurs que nous sommes chacun. On pourrait étendre les exemples également aux consommateurs que nous sommes lorsqu'on nous invite à changer notre façon de vivre. Eh bien, nous sommes tous, d'une manière ou d'une autre, pris en considération. Il n'y a pas seulement les industriels, les politiques, les chercheurs, les biologistes, etc., les agriculteurs. Nous sommes aussi, chacun à notre niveau, concernés. Mais cela pose, il me semble, une question fondamentale. Comment nous convaincre d'entreprendre une vaste réforme, puisque c'est bien de cela qu'il s'agit, pour sauvegarder notre environnement ? où allons-nous puiser la motivation de changer de comportement, de vivre avec modération, avec un souci de justice envers les plus pauvres, tout cela est très louable, avec le désir de transmettre un patrimoine naturel qui permette aux générations futures de vivre dans de meilleures conditions. Le risque n'est-il pas alors d'imposer une sorte de dictature écologiste ? Dans son livre « Le nouvel ordre écologique », Luc Ferry, qui aborde la question de l'écologie profonde, la « deep ecology », cite un certain Jean Fréchaud, qui fut un temps, semble-t-il, membre du Parti des Verts, et qui rêve, je cite, « d'un gouvernement mondial qui puisse oppresser les populations afin de réduire toutes les pollutions et changer les désirs comme les comportements par des manipulations psychologiques ». Oui, c'est un risque réel. Pour ces écologistes les plus radicaux, excusez-moi, je regarde si je suis bien dans le temps, des diapos, donc cette deep ecology, l'être humain n'est pas au centre de la nature. Il est au contraire relégué à la périphérie du système, il n'est plus qu'un élément parmi tant d'autres sur cette terre, et c'est la nature elle-même, dans son ensemble, qui est au centre. Ainsi, la décroissance, et même décroissance radicale de la population, voire la disparition de l'être humain, pourrait-elle favoriser la biodiversité, puisque l'être humain est la principale cause des désordres actuels dans la nature. Ça va jusque-là, et c'est écrit, on peut le lire dans tous les travaux et les publications de cette écologie radicale. Mais, bien sûr, ça n'est pas une solution, ni humaine, ni chrétienne. L'écologie pourrait aussi devenir une nouvelle utopie universelle, avec sa dimension religieuse. Cette influence de la religion sur l'écologie est déjà sensible dans des grands rassemblements qui ont été organisés au départ en marge du rassemblement interreligieux d'Assises en 1986 et qui se sont renouvelés à échéance régulière, organisés désormais par le Fonds mondial de la nature, le fameux WWF, et l'Alliance des religions et de la conservation. Par ailleurs, il est assez courant aujourd'hui de rencontrer des scientifiques de haut niveau, mais aussi des écrivains, des artistes et surtout des militants écologistes qui expriment leur attachement, je l'ai déjà mentionné, à diverses formes de panthéisme. Pour eux, tout être humain et tout élément de la nature révèle en quelque sorte une intelligence, conscience universelle, diffuse, impersonnelle, qui irrigue l'univers et qui est en perpétuelle évolution. Je résume à très grands traits cette pensée, mais elle est très présente dans notre société. Je tenais au moins à le mentionner, on le retrouve dans beaucoup de publications aujourd'hui, et surtout on voit un véritable engouement dans ce sens, hérité plus ou moins de la philosophie de Spinoza au XVIIe siècle, mais qui va en s'épanouissant à mesure qu'on avance dans le temps. Alors, je voulais au moins laisser cette petite piste-là de réflexion par rapport à notre colloque sur l'avenir, et notamment dans le domaine de l'écologie, cela a un impact réel. Ou encore, nous disent les écologistes qui jouent beaucoup sur la peur, allons-nous trouver dans la peur une motivation suffisante ? La peur d'un accident industriel majeur, la peur du réchauffement climatique et de ses conséquences, la peur d'un conflit politique mondial. Alors tout cela, oui, d'une certaine manière, relève du probable, mais je ne suis pas sûr que la peur que l'on semble manier aujourd'hui ait à tout sens, même si elle peut avoir certaines vertus pédagogiques, entre guillemets, je ne suis pas du tout sûr que la peur soit la meilleure des motivations pour nous inciter à changer de mode de vie. Et d'ailleurs, ne dit-on pas que la peur est mauvaise conseillère. Je reste ainsi convaincu que la foi chrétienne, au moins pour ceux qui s'en réclament et qui cherchent à la mettre en pratique, bien sûr, la relation personnelle avec le Dieu de l'Alliance, cette relation filiale que nous avons, dont nous jouissons en Jésus-Christ, cette communion avec Dieu, même si elle est encore relative dans ce temps de notre attente du royaume de Dieu qui doit se réaliser et être parachevé, comme on l'a rappelé ce matin, eh bien, je crois que cette communion encore relative avec Dieu peut devenir une source de motivation très puissante pour se conformer davantage aux exigences d'une vie plus sobre, en tout cas plus conforme à la volonté de Dieu, et surtout d'un autre rapport au temps, à l'espace et à nos ressources. Alors pour conclure, je terminerai par trois remarques, ou par plusieurs remarques. En premier lieu, en tant que chrétien, il est bon de rappeler que nous voulons honorer Dieu, le Créateur, et donc prendre soin de sa création. Il me semble évident que lorsqu'on aime quelqu'un, on prend soin, on respecte ce qu'il nous offre. Cela se traduit aussi par le fait que nous reconnaissons un certain ordre dans nos priorités. Nous voulons tout d'abord rendre un culte à Dieu qui est au-dessus de toute chose. Le Seigneur qui est le centre de nos vies, la référence ultime de nos décisions et de nos actions, un Dieu à qui la terre appartient, comme le souligne notamment le psaume 24, nous sommes les gérants et non les maîtres de notre planète. Nous respectons ainsi chaque être humain créé à l'image de Dieu et nous cherchons le bien-être et la prospérité de tout homme ou femme de cette terre. Nous voulons également respecter les animaux, prendre soin des richesses naturelles, végétales ou minérales qui nous sont confiées, avec un souci de développement, certes, mais aussi avec sagesse, avec justice, afin de vivre, si possible, une croissance que je qualifierais donc de raisonnable et surtout de partagée. Peut-être le mot qu'on a oublié dans notre liberté d'entreprendre, de gérer, de prendre soin de la création, n'oublions pas que cela peut aussi déboucher sur, et cela doit d'une certaine manière déboucher sur, la libéralité, qui est justement cette liberté de donner à l'autre. Il me semble à ce titre que nous pourrions réhabiliter le sens premier du mot économie, qui est la bonne gestion de notre oikos, de notre maison. C'est d'ailleurs le même terme, la même racine que pour le mot écologie. Donc une bonne gestion de notre maison, qu'elle soit individuelle, et je crois beaucoup aux vertus de l'exemple familial, mais aussi bien sûr par extension de notre maison collective à toutes les échelles. Et donc réhabiliter aussi le terme d'économiser ou le verbe, le fait d'économiser au sens fort pour mieux se préparer à affronter les crises qui ne manquent jamais de survenir. Je suis très étonné par la naïveté de nos contemporains qui s'étonnent que des crises surviennent. Mais cela a toujours existé, il y aura encore des crises et nous, j'espère, les dépasserons. Mais je prends l'exemple de Joseph en Égypte qui, pendant les périodes de vaches grasses, fait des économies pour affronter les périodes de vaches maigres qui inévitablement surviendront. Et nous éviterons alors de tomber dans le piège d'une domination excessive, dans la démesure notamment du gaspillage, et nous avons été un peu vaccinés dans ce domaine, de la surexploitation et de la surconsommation. Ce n'est pas l'exploitation et la consommation qui sont un réel problème, mais certainement la surexploitation et la surconsommation qui ont caractérisé trop souvent nos sociétés contemporaines, précisément dans nos pays de tradition chrétienne, en Europe ou aux États-Unis. Cette attitude, il me semble, est une insulte envers Dieu et envers nos semblables, en particulier envers les plus pauvres et envers ceux qui nous suivront dans ce monde. Les chrétiens que nous sommes doivent apprendre à résister à la tentation de la cupidité, ce qui n'a sans doute pas toujours été le cas, apprendre à résister aussi aux désirs parfois insensés, suggérés, attisés par la publicité, résister aux effets de mode, et pour cela il faut conserver un certain recul critique, on en parlait ce midi à table avec quelques-uns d'entre vous, réapprendre aux jeunes peut-être en particulier à exercer leur sens critique, et dans un sens peut-être plus positif, apprendre à vivre de façon plus équilibrée, et je crois qu'il en va de la crédibilité de notre témoignage chrétien, pour le moins. Ensuite, il me paraît important, toujours en tant que chrétien, de cultiver et de garder notre foi en ce Dieu souverain, providentiel, sur qui nous pouvons nous reposer avec foi, avec confiance, un Dieu qui pourvoit à nos besoins en Jésus-Christ, selon la formule de l'apôtre Paul, et qui pourvoit à tous nos besoins dans notre foi en Jésus-Christ. Ce qui est, il me semble, un excellent remède contre la peur, et notamment en temps de crise. Enfin, il est de la responsabilité de tous les hommes et femmes de cette terre d'accomplir au mieux cette mission de bien cultiver et garder le jardin du monde. Cultiver et garder, les deux vont ensemble. pour mieux cultiver et garder notre terre au sens large, il importe de faire preuve aujourd'hui de créativité, d'encourager, on l'a redit ce matin, la recherche, l'innovation, afin de réduire en particulier notre consommation d'énergie fossile, pour durer peut-être un peu plus longtemps, même si les réserves s'avèrent plus abondantes que prévu, notre consommation d'électricité, etc., etc. Nous ne pensons pas, en tant que chrétiens, que nos mesures écologiques, notre façon de vivre, vont nous permettre d'établir en quelque sorte le royaume de Dieu sur terre. Nous savons bien que l'écologie ne nous permettra pas de sauver le monde. Nous ne croyons pas que l'homme donc sera capable d'établir ce royaume de Dieu sur terre grâce à son intelligence, son habileté technique, ni même, donc je le disais, grâce à ses mesures de protection de l'environnement ou pour assurer un développement durable. Nous attendons, alors nous en parlerons tout à l'heure, de nouveaux cieux, une nouvelle terre, ou en tout cas un monde renouvelé, recréé, régénéré par Dieu. Et nous continuerons en attendant à dénoncer la réalité du mal dans le monde, comme aussi l'utopie du progrès, de la productivité, de l'écologie, qui nous délivrerait de ce mal qui nous enveloppe si facilement, comme le souligne l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Certes, nous pouvons protéger, favoriser notre environnement naturel et humain surtout, et nous le ferons comme un signe de notre espérance en ce que Dieu un jour renouvellera cette création qui soupire tout entière après le salut. Je crois qu'il faut, et je terminerai par là, faire tout ce qui est en notre pouvoir pour améliorer nos conditions de vie. Et pour notre part, en tant que chrétiens, nous le ferons par amour pour Dieu, et donc avec un certain plaisir. Nous le ferons d'autant plus avec plaisir que c'est pour le bien de chacun d'entre nous, et aussi pour le bien de tous ceux qui nous entourent. On parle de l'environnement, mais dans l'environnement, il y a l'être humain, il y a tous nos semblables qui nous environnent, et c'est envers eux, bien sûr, que nous voulons aussi nous porter et porter tous nos efforts, et c'est certainement là l'une des meilleures motivations, parce que prendre soin de la création dans le temps présent, je crois que c'est aussi une façon d'aimer Dieu et notre prochain. Je vous remercie pour votre attention.